VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'épidémie de fièvre Ebola qui a tué 528 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo est actuellement maîtrisée dans l'un de ses foyers, la zone de Beni, a déclaré le ministère de la Santé. Il s'agit de l'une des premières notes d'optimisme depuis le déclenchement de l'épidémie le 1er août dernier. Beni a été l'un des principaux épicentres de l'épidémie de cette fièvre hémorragique avec 118 décès de cas confirmés. Corruption et politique en RDC après la présidentielle et les législatives du 30 décembre. L'occasion sera donnée aux nouvelles autorités du Congo de prouver leur engagement à lutter contre ce fléau avec la désignation le mois prochain de 108 sénateurs et des gouverneurs dans 24 des 26 provinces de la RDC. Ces élections ont lieu au scrutin indirect et les grands électeurs ont souvent tendance à monnayer leur voix en dollars. La RDC est l'un des 10 pays les plus corrompus au monde, selon l'indice de perception de l'ONG Transparency International. Dans son discours d'investiture le 24 janvier, le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, avait qualifié la corruption de fléau qui dévaste le pays et ses institutions et il avait promis une stratégie de lutte dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé mercredi avoir apporté son soutien au président Yoweri Museveni, âgé de 74 ans, pour la présidentielle de 2021, cela en vue d'un sixième mandat. Le mouvement de la résistance nationale, NRM, a appelé dans une résolution M. Museveni, au pouvoir depuis 1986, à continuer à diriger le mouvement et l'État en 2021 et au-delà pour éliminer les freins à la transformation du pays. Le ministre sud-africain des Finances Tito Mboweni présente aujourd'hui son budget 2019 sous l'œil attentif des marchés qui s'inquiètent des risques et que les difficultés du géant public de l'électricité Eskom font courir à l'économie du pays. Monsieur Mboweni doit notamment livrer les détails de son projet de sauvetage du groupe plongé dans la tourmente lors de son discours devant le Parlement au Cap. Eskom est confronté à une dette abyssale de 27 milliards d'euros, conséquence d'années de mauvaise gestion et de détournement de fonds sous la présidence de Jacob Zuma de 2009 à 2018. Côte d'Ivoire, le dirigeant du premier syndicat des enseignants d'université publique, Johnson Dzamina Kwasi, a été inculpé et écroué mardi à Abidjan. Les détails, Morgane Guerrier.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. D'après Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires, un autre camarade a aussi été déféré au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présenté à un juge. Monsieur Zadi, qui dénonce une violation des libertés syndicales, estime que cette arrestation abusive suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est rentrée lundi dans sa cinquième semaine. Outre l'arrestation de deux enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu quatre enseignants, dont le responsable de la CENEC, pour des violences. Sept autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Monsieur Kwasi avait déjà averti lundi qu'une telle mesure allait exacerber la grève et durcir leur mouvement.
Au Mali, le préfet de Tenenko, Makan Doumbia, a enlevé le 8 mai dernier dans la région de Mopti. Le journaliste Issiaka Tamboura ont été libérés hier. Ils sont maintenant à Bamako en soins intensifs. Leur libération a été rendue possible grâce au service de renseignement malien, la DGSE, qui a mené les négociations avec les ravisseurs. À Bamako, retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Parti pour une cérémonie sociale dans son village natal, c'est au retour que notre confrère Issiaka Tamboura, du journal de Soft, a été enlevé le 27 décembre 2018 sur l'axe Boni-Nonkara. Comme Issiaka Tamboura, le préfet de Tenenku a été aussi libéré. Il s'agit de Makan Doumbia, qui avait été enlevé le 8 mai 2018 sur la route Mopti-Tenenku. Makan partait pour occuper son poste au niveau de Tenenku en tant que représentant de l'État l'État malien. Aujourd'hui, la libération de Makan est saluée par ses camarades Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat national des administrateurs civils.
Aux environs de 19h lundi, nous avions vu que notre collègue était au niveau d'un centre hospitalier en soins intensifs. Nous avons essayé de recouper les informations jusqu'à ce matin où la confirmation a été donnée. Nous sommes d'autant plus heureux que nous ne cessons de nous organiser du mieux que nous pouvons pour vraiment apporter le message de douleur de famille et de ses collaborateurs.
Ces deux libérations ont été obtenues grâce à l'intervention de la DGC malienne Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La première ministre britannique Theresa May remet le cap aujourd'hui sur Bruxelles en quête de modification de l'accord de Brexit déjà conclu avec l'Union européenne. Mais elle devrait de nouveau se heurter à des Européens flexibles. À moins de 6 semaines de la date officielle du divorce, la crainte d'une rupture sans accord se renforce, faute de solution à la question controversée du filet de sécurité censé éviter le retour d'une frontière physique en Irlande. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la résurgence de l'antisémitisme constitue un problème central pour les communautés juives. Déjà lundi, il avait dénoncé l'antisémitisme rampant à la veille d'un sommet avec les dirigeants des pays d'Europe centrale à Jérusalem. La Pologne s'est retirée de cette réunion, citant des insultes d'Israël. Et hier, Netanyahou est encore revenu sur ce thème sensible avec la profanation d'un cimetière juif en France. Raïssa Gérondet.
Il s'est produit en France quelque chose de choquant. En Alsace, 84 tombes juives ont été profanées par des sauvages antisémites au moyen de symboles nazis, a déclaré Netanyahou dans un communiqué. Il a appelé les dirigeants français et européens à prendre fortement position contre l'antisémitisme.
Les efforts malveillants visent à diaboliser l'État juif, à priver le peuple juif du droit à l'autodétermination sur notre terre ancestrale. Je pense que nous devons l'appeler simplement et clairement antisionisme, la nouvelle forme d'antisémitisme. Et cela n'a pas d'importance de savoir d'où il vient, de l'Est, du Centre-Est ou de l'Ouest.
Cette fois-ci, Netanyahou s'est bien gardé d'appeler les juifs à venir vivre en Israël. En 2015, il avait piqué au vif les dirigeants français en lançant aux juifs qu'Israël était leur foyer après l'assassinat de 4 juifs par un djihadiste à Paris. Sur Twitter, son ministre de l'immigration, Yoav Gallant, s'en est chargé. Il appelle les juifs de France à rentrer à la maison, immigrer en Israël. Pour Isaac Herzog, président de l'agence juive chargée de l'immigration, la profanation d'un cimetière en Alsace est une indication supplémentaire de l'antisémitisme qui se répand à travers l'Europe et menace les juifs jusque dans la rue. Dans une interview télévisée dimanche, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Israël Katz, avait déclaré que les Polonais sucent l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Fin de citation. La Pologne s'est aussitôt retirée du sommet prévu hier mardi à Jérusalem. Mateusz Morawiecki, premier ministre polonais, s'explique.
Les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères par intérim, M. Katz, sont absolument inacceptables, non seulement en langage diplomatique, mais pour moi, ils sont tout à fait inacceptables dans le domaine public.
À Paris, des manifestants aux Gilets jaunes ont aussi suscité l'indignation. Un de leurs groupes a agressé verbalement le philosophe français Alain Finkielkraut, un juif qui passait par là. Il a fait remarquer que personne ne lui avait adressé des insultes antisémites et a suggéré que l'agression émanait d'un extrémiste musulman.
Les Palestiniens, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël, devenu aux yeux de certains, État criminel et même génocidaire. Et donc, on est beaucoup moins bien armés pour combattre une haine de ce type parce qu'elle est pleine de bonne conscience, si vous voulez. L'antisémitisme d'aujourd'hui est devenu un antiracisme.
Par contre, Vincent Duclerc, un historien français qui a visionné la vidéo de l'incident, n'est pas d'accord.
Il faut arrêter effectivement de dire « Ah, on n'a pas dit sale juif, donc c'est pas antisémite ». D'abord, en plus, ceux qui effectivement l'agressent savent bien que sale juif, on se met sous le coup de la loi, sale sioniste, on en échappe. Donc il faut être très très clair, c'est une agression antisémite absolument inouïe.
Beaucoup de pays européens luttent avec la mémoire de leur passé. La France a toujours eu du mal avec les rafles du Veldiv et la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, la Pologne, qui a pourtant abrité des camps de concentration nazis, a refusé de blâmer les crimes commis pendant l'Holocauste. L'antisémitisme et le discours de haine sont interdits dans de nombreux pays, mais les attaques contre les communautés juives sont fréquentes.
Les militaires fidèles au président Nicolas Maduro se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale du Venezuela face aux milliers d'opposants qui se préparent à converger vers les frontières dans le but de faire entrer dans le pays l'aide humanitaire stockée aux portes du pays. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.